Fidèles auditeurs et auditrices de Radio Efata, la voix du presbytérien, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la SEVA. Nous sommes heureux d'accueillir dans nos studios des acteurs de la vie de cette organisation, l'Église du Togo, notamment l'Église méthodiste du Togo et l'Église évangélique presbytérienne du Togo qui en sont membres, sont contentes d'accueillir les différents travaux qui se sont tenus sur leur territoire. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous voudrez bien vous présenter à nos auditeurs.
Voilà, moi, c'est le pasteur Célestin Kiki, secrétaire général de la SEVA.
Bonjour, moi, je suis Magda Kopenen. Je viens de l'île Maurice et je suis sur le conseil de la SEVA.
Bonjour, moi, c'est Martin Burkhardt, pasteur de l'église évangélique réformée du canton de Fribourg, en Suisse, et je suis secrétaire du conseil exécutif de la SEVA.
Nous avons une quatrième personne qui est un observateur, s'il veut bien se présenter.
Bonjour, moi je suis Franck Lefebvre et je suis chargé de la communication de la SEVA.
Merci en tout cas d'avoir accepté de parler avec nous de la SEVA dans les studios de Radio Efata, la voix du presbytérien. Et donc vous étiez déjà la semaine dernière en atelier sur le projet Solidarité Santé. Et nous en avons déjà parlé sur nos antennes. Et cette semaine s'est tenu le conseil exécutif de la SEVA. Avant de parler des décisions qui en sont sorties, nous voudrions redécouvrir la SEVA. C'est quoi la SEVA? Où se situe-t-elle? Que fait-elle? Et comment fonctionne-t-elle?
Merci. La SEVA, c'est la communauté d'église en mission. Et avant, c'était un sigle. Communauté évangélique d'action apostolique. La SEVA a été créée en 1971 et comme vous l'avez dit, l'église évangélique presbytérienne et l'église méthodiste du Togo sont des membres fondateurs de la SEVA. La SEVA, c'est une communauté d'église et cette communauté d'église travaille autour d'un mot d'ordre, à savoir partager pour agir. C'est une utopie née avec les pères fondateurs, puisque à la fin de la Société des missions évangéliques de Paris, il a été décidé de créer la SEVA. Et cette communauté avait travaillé au Bénin et aussi au Togo, dans le Bas-Mono, pour ceux qui s'en souviennent, avec l'action apostolique commune. La SEVA travaille autour de trois mots d'ordre. Le premier mot d'ordre, c'est la mission de partout vers partout. Ce n'est plus la mission du nord vers le sud, mais c'est du sud aussi vers le nord, du sud vers le sud, et puis du nord vers le nord. Et puis, la SEVA, le deuxième mot d'ordre, c'est tout l'évangile à tout l'homme. Et tout l'évangile à tout l'homme, c'est le travail abattu par le pasteur Seth Nomeyon de l'EPT, donc, qui a travaillé sur ce concept-là, parce que, à un moment donné, on a pensé que l'évangile a seulement une implication spirituelle, mais les pères fondateurs avec Seth Nomeyon, autour de l'animation théologique, ont dit que l'être humain n'est pas que spirituel, donc il y a l'être humain politique, l'être humain économique, l'être humain écologique, donc tout l'évangile à tout l'homme. Quand on dit l'homme, à grand H bien sûr, l'être humain. Et puis le troisième mot d'ordre, c'est rendre la parole au peuple de Dieu. Parce qu'on avait pensé que ceux qui avaient le monopole de la parole, de l'interprétation de la parole, ce sont des pasteurs. Mais avec la SEVA, on a découvert que le peuple de Dieu aussi pouvait avoir sa lecture de l'évangile. Donc c'est autour de ces trois mots d'ordre que la SEVA travaille aujourd'hui. La SEVA, c'est 35 églises et union d'églises dans 24 pays et dans le monde entier. Son fonctionnement, il y a une assemblée générale qui se réunit tous les deux ans avec des thèmes différents. Et puis, entre deux assemblées, il y a le conseil exécutif qui est composé de 11 membres, donc une présidente, et puis 10 autres membres venant des différents, ou représentant différentes régions. Et puis, il y a un secrétariat exécutif qui est à Montpellier, et nous avons aussi des commissions que nous appelons des coordinations, il y en a deux. Voilà ce que je peux dire brièvement sur
ça. Vous venez de le dire, c'est 35 églises dans 24 pays. Comment est-ce qu'on devient membre de la CEVA?
Voilà, il y a eu des membres fondateurs, comme je l'ai dit. Et après, il y a des critères qui sont définis pour être membre de la CEVA. Il y a tout un dossier à fournir. Il y a des questions auxquelles il faut répondre. Il faut voir si l'Église a un fonctionnement presbytéro-synodal. Quelles sont les activités? Est-ce que les femmes ont leur place au sein de l'Église? Les finances? Donc, tout un dossier. Et puis, le parrainage de deux autres églises. À partir de là, le conseil étudie le dossier. Après avoir étudié et examiné le dossier, le conseil envoie une délégation pour aller voir les réalités de l'Église qui demande à être membre. Et après, cette délégation fait un rapport au conseil et le conseil envoie la demande à l'Assemblée générale. Donc voilà un peu comment ça se passe.
Est-il possible entre-temps de perdre son statut de membre, par exemple?
Oui, vous pouvez, les tests le disent, hein, vous pouvez perdre votre statut de membre. Il y a toute une procédure pour perdre son statut de membre.
Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Nous voudrions aussi savoir quels sont les principaux pôles d'activité au niveau de la CEVA.
Les principaux pôles d'activité, vous savez, aujourd'hui, la CEVA travaille dans plusieurs domaines. Hein. Nous avons par exemple le pôle animation. Le pôle animation, c'est ce pôle qui s'occupe de l'animation théologique, qui s'occupe de la formation, tout ce qui est formation, et en même temps des bourses. Donc, c'est ce pôle animation, au pluriel. Après, vous avez le pôle projet et échange de personnes qui s'occupe de tout ce qui est projet, projet à caractère spirituel ou projet de développement ou autre, plus les échanges de personnes, donc les envois des personnes. Ça peut être échange de courte durée comme ça peut être échange de longue durée et puis ça peut être aussi échange de groupe parce qu'il y a eu échange de groupe des femmes. Après, vous avez le pôle santé. Qui s'occupe de tout ce qui est santé, on en a parlé tout dernièrement. Vous avez le pôle jeunesse, parce que la jeunesse aujourd'hui pour la CEVA est une priorité, puisque le slogan c'est « Demain d'accord, mais aujourd'hui d'abord ». En dehors de ça, il y a d'autres activités liées au conseil ou liées à l'Assemblée générale.
En parlant d'autres activités, nous avons Magda, c'est une femme et je suis ravie de l'avoir parmi les invités. Est-ce qu'il y a des activités consacrées aux femmes au niveau de la CEVA?
Oui, nous avons fait le programme Caravane de la Paix, qui a duré en 2006 jusqu'à 2008. Et tout dernièrement, nous avons aussi eu une formation pour les femmes à EBA. Et cette formation a fait le tourner un petit peu, la tournée dans les cinq régions. Et les femmes sont formées pour former les autres. Je veux dire que, bon, c'est quand même quelque chose que nous n'avons pas eu avant, mais maintenant, c'est quand même très très pratique.
En parlant de femmes, nous avons eu le privilège de nous entretenir avec Madame la Présidente de la CEVA. C'est bien une dame qui n'a pas pu être avec nous en studio. Et elle est revenue sur les enjeux du conseil exécutif qui s'est tenu ici à Lomé. Écoutons Madame Henriette Mbachou, Présidente de la CEVA.
Merci déjà, n'est-ce pas, pour cet espace qui nous est donné pendant que nous sommes ici au Togo pour le conseil de la CEVA. Il faut déjà dire que le rassemblement ici au Togo, c'est une réunion statutaire de la CEVA, le conseil exécutif qui se réunit deux fois par an, avril et octobre. Et comme vous l'avez si bien dit, la CEVA, c'est cette communauté de 35 églises en mission. De ce fait, le conseil de la CEVA tourne dans les églises une fois dans le nord, tel qu'on le dit, et une fois dans le sud. Donc cette fois-ci, le Togo a bien voulu, n'est-ce pas, recevoir ce conseil. Voilà les enjeux de ce conseil. D'abord, le conseil en lui-même, c'est le lieu d'évaluation du travail d'un conseil à l'autre. Et les tâches du conseil, c'est de reprendre toutes les décisions de l'Assemblée générale et puis de passer à leurs exécutions. Et cette tâche nous amène donc de prévoir ce temps de rencontre pour évaluer. Donc c'est un temps de rencontre qui évalue les différentes articulations, n'est-ce pas, depuis le conseil passé. Et venant ici au Togo, nous avions des enjeux. Le plus grand enjeu, c'était la nomination du nouveau secrétaire exécutif en charge du pôle animation et jeunesse. Parce qu'il savait que l'ancien a déjà fait 3 fois 4 mandats, ce qui est suffisant, tel que le décrit les textes. Et c'est le Conseil du Togo qui devrait faire la nomination du prochain, ce qui fait que ça a demandé beaucoup de réflexion avant, dans l'étude des dossiers, etc. Dieu merci, nous sommes allés jusqu'au bout et on rentre satisfaits pour avoir, n'est-ce pas, trouvé parmi les 14 candidatures celui-là même qui va continuer à porter l'action dans ce pôle. Les autres enjeux, c'est préparer l'Assemblée générale 2020 qui se tiendra en Suisse. Et c'est une assemblée pleine d'enjeux parce qu'il y aura renouvellement à tous les niveaux. C'est cette assemblée, n'est-ce pas, qui doit voter pour le prochain secrétaire général. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de secrétaire exécutif. Donc, l'Assemblée générale 2020 aura la charge, n'est-ce pas, de voter le prochain secrétaire général qui entrera en fonction en 2021. Et cette assemblée est aussi d'enjeu pour le renouvellement du conseil. C'est-à-dire, il y aura à se prononcer sur les nouveaux membres du conseil parce que les textes prévoient un seul mandat de 4 ans renouvelable une fois. Ça veut dire qu'il y a dans le conseil des membres qui seront partants et il va falloir, n'est-ce pas, refaire. Et même pour ceux qui restent, on refait les votes. Donc, c'est aussi pour nous, ici au Togo, le troisième enjeu, c'est on a mené des réflexions par rapport aux finances de la communauté. Parce que la communauté SEVA, communauté d'église en mission, telle que son nom l'indique, c'est constitué des 35 églises qui mettent ensemble dans un pot, n'est-ce pas, de l'argent. Évidemment, la mise est répartie en fonction de la taille et du dynamisme de l'église. Donc, qui mettent ensemble. Il y a des églises qui mettent au-delà de ce qu'on leur demande. Et au moment de faire la répartition, c'est trop dur, on ne sort pas d'argent pour répartir, c'est-à-dire entrer dans les actions des églises qui sont dans le besoin, on ne regarde pas ce qu'on a mis. Donc vous pouvez mettre une toute petite somme et avoir un besoin de réalisation dans votre église qui passe au-delà de ce que vous avez mis. Donc, on met ensemble et on repartit, on se soutient, etc. Donc, les contributions viennent des églises. Et depuis un peu plus de 3 ans maintenant, il y a des difficultés dans les églises. Il y a des baisses de contributions dans des églises. Et la question à discuter ici, c'était de savoir, et dans la mesure où on n'arrive pas à équilibrer notre budget, faut-il diminuer certaines activités ou bien tout simplement les enlever? Et c'était aussi enlevé qu'on a compris que ce n'est pas diminuer les articulations en termes d'activité. Mais il faut réfléchir autrement, voir comment augmenter peut-être les cibles des églises ou rechercher peut-être d'autres sources de financement. Parce que diminuant les activités porteuses de l'action SEVA, ça viendra diminuer, n'est-ce pas, la vision même de la communauté. Donc, on est allé jusqu'au bout et ce travail va se finaliser pour le prochain conseil en avril 2020. Ce que je peux dire, c'est que la terre togolaise est une terre bénie parce que nos travaux se sont déroulés dans un climat paisible, paisible. Et surtout, la logistique ou bien l'espace d'accueil nous a disposé pour nous mettre à l'aise, pour qu'on soit à l'aise, n'est-ce pas, pour avancer. Et ce qui nous réjouit, c'est que nous sommes partis d'ici satisfaits. Nous venions de faire l'évaluation avant votre arrivée et le tour de table, c'était la satisfaction totale. Évidemment, pour avoir couvert le programme, c'est-à-dire les objectifs ont été atteints et c'est ce qui est important pour un conseil comme celui-ci.
Un conseil exécutif, c'est un lieu d'évaluation, mais aussi de revue des décisions de l'Assemblée générale, comme l'a dit Madame la Présidente dans ses propos. Quelles sont les décisions majeures qui ont été prises au cours de ce conseil qui vient de se terminer?
Oui, c'est vrai, c'est une assemblée générale tous les 2 ans. Donc l'année dernière, nous avons vécu une belle assemblée générale à Douala. Et peut-être une chose que nous avons dû reprendre, c'est aussi comment rendre accessible, non seulement aux délégués de cette assemblée, mais à toutes les églises, le thème qui était l'intolérance religieuse, qui doit intéresser toutes les églises jusqu'à la base. Donc rendre accessibles des documents, peut-être des réflexions au plus grand nombre. Ensuite, nous avons en 2021 les 50 ans de la SEVA. 50 ans, ça se fête, hein, c'est un demi-siècle, c'est magnifique trajet. C'est pouvoir regarder un peu dans le rétroviseur, mais c'est surtout aussi regarder dans l'avenir, et c'est avant tout aussi de festoyer. Donc, il y a plusieurs projets qui ont été présentés l'année dernière à l'Assemblée générale de Douala, que le Conseil a repris, a redistribué parmi ses membres pour que chacun puisse prendre une part de responsabilité. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'idées, beaucoup de réalisations peut-être qui vont se faire. Ça va d'un concours, d'un recueil de chants, de recueil de prières, des dessins d'enfants, d'un dimanche Seva dans l'année 2021, etc. Donc, beaucoup d'activités pour stimuler, en fait, la connaissance et l'appartenance à la SEVA. Parce que la SEVA n'est pas une organisation, mais une communauté d'église où chacun doit trouver sa place. Mais pour la trouver, il faut d'abord qu'il prenne bien conscience, qu'il en fasse partie. Donc, 50 ans de la SEVA, c'était aussi un sujet important. Puis, nous regardons aussi de l'avant, parce que dans une année, il y aura l'Assemblée générale de la SEVA en Suisse. Et nous avons décidé du thème. Un thème, bien sûr, nous voulons être dans l'actualité, nous voulons aussi prendre des sujets qui intéressent les églises. Donc c'est autour de l'écologie que nous allons réfléchir, théologiquement, spirituellement, bibliquement, mais aussi très concret. Qu'est-ce que chaque église, chaque paroisse peut faire dans ce domaine? On verra où ça nous amène. Bien sûr, comme toute communauté ou comme toute église, nous sommes aussi des fois en prise avec des questions financières, on a toujours plus de projets, plus d'idées que l'argent à disposition. Donc là aussi, nous avons un budget très serré où nous regardons de près qu'est-ce que nous voulons faire, qu'est-ce que nous pouvons faire et qu'est-ce que nous devons laisser tomber. C'est une communauté d'église et le conseil, c'est aussi l'occasion de se pencher un peu sur l'autre et l'église. Il y a des églises qui vivent des fois des tensions ou des conflits. Et nous sommes là aussi, la CEVA, pour les accompagner dans un processus parfois de rapprochement, mieux encore de réconciliation, mais au moins leur dire que nous sommes là aussi à leur service. Nous avons aussi parlé, ça c'est intéressant peut-être, de la paroisse francophone de Rome, hein, l'Italie, on parle l'italien, dans l'église italienne vaudoise. Mais là, il y a dans ce pays plusieurs paroisses ou groupes francophones constitués d'Africains. Et l'église vaudoise doit aussi réfléchir comment elle va répondre aux besoins des francophones qui sont sur leur territoire. Voilà, donc ça c'est une question. C'est aussi une communauté d'église, donc comme nous avons dit tout à l'heure, qui accueille des nouveaux membres. Et nous avons de temps en temps des demandes, nous devons les regarder très soigneusement. Voilà un peu deux, trois choses qui nous ont préoccupés entre bien d'autres qui sont peut-être aussi confidentielles.
Donc la CEVA, c'est une communauté d'église membres, donc qui ont quand même une part ou un rôle à jouer dans l'exécution ou dans la vie de l'institution. Comment est-ce que de façon concrète vous pouvez inviter les églises à jouer leur partition par rapport aux différentes décisions qui ont été prises?
Merci. Ce que nous faisons généralement après le conseil, les décisions sont notifiées aux églises. Il y a un communiqué final qui sanctionne les travaux. Et après, nous suivons la mise en exécution de ces décisions. Donc chaque église est impliquée. C'est d'abord l'information de qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait. Et après, maintenant, au niveau de chaque acteur, au niveau de chaque église, nous voyons comment nous les impliquons dans l'exécution des différentes décisions.
Madame Magda, pardon, ok, pasteur Martin,
oui, vous voulez revenir sur... à cette question que je trouve importante, qui est justement différente d'une organisation où c'est le secrétariat, le noyau qui agit. Ici, ben voilà, nous renvoyons chaque fois un peu la balle dans les églises, qui doivent prendre des responsabilités, notamment aussi en s'intéressant à la communauté, en proposant des projets. Ça, c'est très concret. Si vous avez un projet d'échange de jeunes, si vous voulez rencontrer un groupe de femmes, vous rencontrez un autre groupe de femmes. Donc préparer tout cela, ça, c'est vraiment de l'ordre de la responsabilité des églises. Nous avons aussi des postes, parfois, à disposition, que ce soit au secrétariat ou une église qui dit « Tiens, on aimerait bien avoir... un pasteur, comme par exemple l'église protestante de Genève, qui accueille un pasteur de l'église évangélique presbytérienne du Togo. C'est un échange. Donc on ouvre des postes et puis on peut aussi postuler à ceux-là. Donc ça, c'est aussi, après, une sorte de décentralisation dans les églises, dans les paroisses. Après, faut-il encore que chaque église le voie et prenne vraiment ses responsabilités.
Tout à fait. Donc je disais, Madame Magda, vous venez de l'église presbytérienne de l'île Maurice. On parle d'église membre qui participe à la vie de la CEVA. Si vous voulez bien nous parler de l'implication de votre église, de votre église dans la vie de la CEVA.
Ben, nous sommes membres de la CEVA. Nous étions d'abord église... oui, nous sommes devenus membres 10 ans de cela, membres de la CEVA, mais nous étions aussi associés, membres associés de la CEVA, fut un temps. Mais quand même, nous avons eu la CEVA qui nous a aidés dans beaucoup de nos projets et qui nous a fait nous rendre compte que nous pouvons nous mettre debout sur nos propres pieds. Et voilà ce que... La CEVA nous a aidés aussi pendant nos 40 ans d'autonomie et de nous avancer. Et maintenant, là, pour les 40e anniversaire d'autonomie, nous avons dit avançons ensemble. Et nous avons bien sûr l'aide de la CEVA qui est là. pour nous aider.
Donc, la CEVA vous porte quand même en tant qu'église.
En tant qu'église, oui, oui. Et parce que nous avons aussi des projets qui ont été soutenus par la CEVA.
Merci bien. Vous voudriez ajouter quelque chose par rapport à ce que...
Oui, ce qu'il faut ajouter, c'est que, comme Martin l'a dit tout à l'heure, le pasteur Bouka l'a dit tout à l'heure, il y a la responsabilité des églises et nous veillons vraiment à ce que chaque église prenne sa place et pleinement au sein de la CEVA pour rendre d'abord visible cette communauté. Parce que la CEVA, ce n'est pas le secrétariat. C'est un secrétariat léger. La CEVA, c'est chacun. C'est chaque église, c'est chaque chrétien qui est CEVA là où il est.
Merci beaucoup de nous donner toutes ces informations et toutes ces implications. Un des principaux pôles d'activité de la CEVA est la jeunesse. Et en parlant justement de cette jeunesse qui est aujourd'hui touchée par la question de l'immigration clandestine, comment la CEVA adresse-t-elle ce défi majeur ? Avant de vous donner la parole ici en studio, je propose que nous écoutions la présidente qui donne la perception de la CEVA. Écoutons-la.
La CEVA a vu ça longtemps avant. C'est l'un des thèmes porteurs de la CEVA, c'était sur la migration clandestine, le voisin autre, étranger sur ma terre. Donc, par rapport à nous, la CEVA a travailler, amener des réflexions, n'est-ce pas, pour sensibiliser les églises sur la forme de migration. On ne refuse pas la migration, mais qu'elle soit une migration légale. Et surtout, pour ce que nous vivons aujourd'hui avec nos enfants qui vont en aventure, qui utilisent des moyens obscurs et qui se retrouvent dans des difficultés là où ils croyaient trouver la prospérité. Il y en a aussi qui perdent leur vie. Donc un travail fort a été fait par la CEVA pour que chaque communauté puisse insérer dans son programme, n'est-ce pas, une causerie ou bien un entretien avec la jeunesse pour expliquer, pour dire c'est pas la fin du monde, c'est pas toujours ce qu'on pense, c'est pas toujours mieux là-bas que chez vous. Donc et donner des outils, des petites formations pour maintenir les jeunes, parce que quand on regarde au niveau de la jeunesse, parfois, on réfléchit et puis on se dit, quelque part, ils ont raison. Parce que dans nos pays, on ne leur donne pas la place. Quand bien même ils ont un bagage intellectuel, ils n'ont pas d'accès au travail. Et ça révolte. Et c'est ça qui fait que beaucoup de nos enfants aussi, qui sortent pour les études, ne rentrent pas. Il y en a qui rentrent pour inspecter, pour voir un peu, mais quand on constate que tout est fermé. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on décrit. Mais on se dit, la CEVA a aussi vu l'angle de recevoir le voisin autre, qui n'est pas de chez moi, qui n'est pas de mon pays. Comment recevoir ce voisin autre? Et le voisin autre peut être un migrant qui débarque sur ma terre, qui n'a pas où mettre la tête. En tant que communauté, comment accompagner?
La présidente dit oui, peut-être à une immigration légale, mais aussi à une exhortation à l'accueil de l'autre, du voisin. Qu'en dites-vous?
Merci. La CEVA a toujours été préoccupée par les questions de migration, puisque l'Assemblée générale de la CEVA en 2006, qui a eu lieu à Bouznika au Maroc, avait comme thème à la rencontre de notre voisin. Et l'un des voisins, ou à la rencontre de nos voisins, l'un des voisins, c'était le voisin migrant. Et vous savez que le Maroc, c'est un peu, je dirais, un centre où les migrants venant, ceux qui viennent de l'Afrique au Sud-Sahara sont là, dans l'attente de traverser la Méditerranée pour aller de l'autre côté. Donc, ce thème avait été abordé au Maroc en 2006, mais l'Assemblée a dit, mais il faut que on creuse ce thème-là. Cette thématique, d'où en 2010, au Gabon, à Libreville, le thème a été abordé, bien sûr, avec un test biblique où on dit comment chanterions-nous les cantiques du Seigneur sur une terre étrangère. Donc, ce que nous avons dit, on ne peut pas empêcher la migration, les déplacements. Les déplacements sont là. Généralement, on voit seulement la migration sud-nord. Alors que la migration sud-sud, entre pays africains par exemple, la migration est très importante au niveau de nos frontières. Mais en même temps, comment on l'aborde? Et je crois que chaque église travaille par rapport à cette situation. Les jeunes sont sensibilisés au niveau de la CEVA. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons un chargé de mission jeunesse et ce sont des questions que nous avons abordées également dans des rencontres régionales des jeunes. Il y en a eu pour les jeunes de l'Afrique de l'Ouest et du Nord, les jeunes de l'Afrique centrale, les jeunes de la région Afrique australe, océan Indien, les jeunes de l'Europe et puis les jeunes de Pacifique, donc Pacifique, Amérique latine. Donc nous abordons cette thématique pour sensibiliser les jeunes parce qu'on pense généralement que l'Eldorado c'est toujours de l'autre côté. Or, nous aussi, on peut quand même construire notre paradis là où nous sommes, cultiver, garder ce jardin là où nous sommes. Donc, c'est une préoccupation. On continue de faire des sensibilisations. Et je crois qu'avec Radio Fréquence Protestante, vous êtes en train justement de préparer des émissions où on doit écouter des acteurs et voir qu'est-ce que nous faisons par rapport à cette thématique.
D'accord. Pasteur Martin, vous...
On pourrait peut-être ajouter qu'après, évidemment, quand il y a immigration, on a quand même ces quelques postes de pasteurs qui veillent un peu sur les migrants, comme je l'ai dit tout à l'heure pour l'Italie. Il y a aussi un pasteur malgache sur l'île Maurice. Il y a le pasteur Adati en Suisse aussi qui travaille avec les églises de la migration. Donc il y a aussi vraiment un souci pastoral, mais évidemment c'est aussi à la mesure de la CEVA. Et peut-être aussi les églises peuvent s'imaginer des projets de formation professionnelle. Peut-être c'est aussi une question sociale et spirituelle aussi. Comme nous avons par exemple une formation au métier du froid au Sénégal par les églises protestantes au Sénégal. Donc il y a encore peut-être à inventer des choses, mais il y a déjà beaucoup de choses, comme disait le pasteur Kiki, déjà, qui sont en cours.
Aujourd'hui, au sein de l'église évangélique presbytérienne du Togo, c'est le dimanche de la réforme. 500 ans après, il y a comme une crise qui secoue l'église, aussi bien au nord comme au sud. Les églises membres de la CEVA vivent-elles cette crise de la même manière? Pasteur Célestin Kiki.
Merci, ça c'est une belle question. En 2017, nous avons revisité notre héritage luthérien, parce qu'avec Luther, à 1517, et puis 2017, il s'est consacré aux 500 ans de la réforme. Donc, et ce dernier dimanche du mois d'octobre est le dimanche de la réformation, célébré dans plusieurs églises, églises protestantes réformées. La réforme en 2017, on a encore dit comment faire notre réforme aujourd'hui, puisque tout le monde le sait, hein, on a parlé de la foi seule, de la Bible ou l'écriture seule, de la grâce seule, on dit Christ seul, et en même temps, à Dieu seul soit la gloire. Voilà les principes, les cinq principes fondamentaux de la réforme de Martin Luther. Les églises sont secouées, il faut le dire, et généralement, c'est au niveau je dirais, de fonctionnement au niveau de la gouvernance des églises aujourd'hui. Je parle surtout des églises d'Afrique. Hein. Mm. C'est au niveau de la gouvernance où il y a ces questions-là. Et puis, il y a des questions aussi de théologie. Mm. Il y a des questions de formation aussi des pasteurs. Mm. Parce que, vous savez, quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, l'ignorance nous amène un peu loin. Comme le dit le prophète, mon peuple périt faute de connaissances. Et je crois que c'est un travail de longue haleine. Mm. La réforme, c'est pas, on a eu la réforme et puis c'est fini. Mm. Nous avons des crises au niveau de nos églises. On essaie parfois de trouver des solutions, de transcender. Je peux vous donner quelques deux ou trois exemples. L'église évangélique du Gabon a été une église secouée par une crise de leadership. Ça a duré plus de 30 ans. Et puis, bon, l'église est réunifiée. L'église protestante méthodiste du Bénin à côté de nous, à côté de Togo, a également été secouée par une crise. Et après 19 ans ou 20 ans, aujourd'hui, l'église est réunifiée et travaille à la consolidation. Et vous avez, par exemple, dans le Pacifique, l'église protestante Kanaky, Nouvelle-Calédonie, qui a une crise avec une autre église, donc une paroisse. Mais chaque fois, la CEVA essaie de faire appel aux compétences pour pouvoir aider dans la médiation, pour pouvoir aider à trouver des solutions. C'est comme l'église au niveau national. Hein. Je sais que le synode aussi parle des paroisses où il y a des problèmes, les paroisses de l'EPT où il y a des problèmes. Mais je crois qu'on y veille, on travaille à cela. On a une crise aujourd'hui au sein de l'église évangélique du Cameroun. Donc, le conseil de la CEVA a décidé aussi d'apporter son accompagnement pastoral dans cette situation. Mmh. Donc, il y a des crises, mais on y veille, et puis il faut être vigilant. On ne peut pas dire, ça concerne les autres, ça ne peut pas venir, ça ne nous concerne pas. Mmh. Donc, voilà un peu ce que nous faisons avec les compétences dont nous disposons, parce que la CEVA, c'est surtout les compétences, les compétences humaines dont nous disposons pour pouvoir accompagner les églises.
Mmh. Pasteur Martin Bucard, l'église du Nord est-elle aussi secouée par les mêmes crises?
Peut-être pas les mêmes. Hein. Mmh. Je pense que institutionnellement, on est assez bien structuré pour qu'il y ait pour que ça se règle à peu près. Hein. Il y a toujours quelques excès de temps en temps par des individus, mais globalement, je pense l'institution Église fonctionne. Mmh. Mais je pense que nous avons un souci avec les contenus. Mmh. Je pense que nos contenus de foi ne sont plus facilement accessible au plus grand nombre, que nous voulons toujours être au service de tous. Hein. Mm. Par exemple, la réforme s'est imposée parce que d'un coup, il y a un nouveau média, l'imprimerie, qui s'est imposée. Aujourd'hui, nous devons nous utiliser les médias sociaux, nous devons utiliser ce qui est à disposition pour dire quelque chose. Mais ça, c'est le côté technique. Moi, je suis profondément convaincu que nous devons aussi trouver des nouveaux mots pour dire la même foi. C'est pas juste une question d'organisation, c'est une question même de, je dirais, théologique, hein, de contenu ou philosophique. Comment nous disons aujourd'hui la foi et comment nous nous approprions des nouveaux sujets. Nous avons parlé tout à l'heure de l'écologie, il y a des sujets bioéthiques, il y a tout l'univers hein, qui s'élargit, on ne sait plus trop bien où placer Dieu dans cet univers. Donc il y a vraiment là un vrai défi à les textes ou le texte sacré, la Bible avec des textes sacrés qui nous sont accessibles aujourd'hui, d'autres religions. Donc l'homme et la femme et les jeunes surtout au Nord sont confrontés à beaucoup de choses et ont peut-être de la peine à s'attacher à quelque chose, s'attacher à une foi ou une religion ou une église. Et c'est un peu cette question de non-attachement qui est aussi un grand problème. Mais avec, modestement, mais quand même avec les jeunes de la CEVA dans les camps, il y a souvent aussi le sujet des médias, des technologies, aussi de la bioéthique qui sont abordées. Donc nous allons, même au sein de la CEVA évidemment, aussi creuser sur ces questions. Je suis d'accord avec le pasteur Kiki, la formation théologique doit peut-être être un peu élevée. C'est exigeant, mais il faut y aller.
Madame Magda, par rapport à l'église évangélique presbytérienne de l'île Maurice, vous avez des défis auxquels vous faites face?
au niveau de notre église, non, pas vraiment, parce que nous continuons à fêter le 500 ans de la réforme. Et justement, ce dimanche, à Maurice, les églises se sont unies et pour fêter l'anniversaire de la réforme. Oui. Ouais.
D'accord. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Quel appel avez-vous à l'endroit des églises membres? Je sais que vous l'avez dit tout à l'heure, mais on va quand même revenir là-dessus. L'appel à l'endroit des églises membres pour une communauté. C'est une communauté et elle doit être vibrante, dynamique, efficiente et efficace. Et donc, quel appel avez-vous à l'endroit des églises?
Alors, si je peux dire quelque chose, moi j'aimerais bien que dans chacune des églises, quand on se réunit le dimanche matin, qu'on pense qu'on n'est pas seul et qu'il y a d'autres églises. Je pensais ce matin au culte, je me dis, mais ce matin aussi chez moi, en Suisse, ils sont ensemble pour prier. Et ça serait tellement beau juste d'avoir cette pensée qu'on est membre d'un corps qui dépasse largement peut-être les soucis aussi de lieu local. Et voilà, de penser à l'autre, de prendre conscience qu'il existe, cela, je pense, est aussi une force. Et après, évidemment, de créer des possibilités de rencontres, ça, c'est un peu l'essentiel pour moi.
Mm-hmm. Oui, nos églises doivent encore s'approprier cette utopie SEVA. Et je crois que le Conseil l'a toujours dit au niveau des assemblées, nous avons toujours redit cela, que la SEVA, c'est chaque église et chaque église dans son contexte. C'est d'ailleurs pour ça que les thématiques que nous abordons, ce sont des thématiques qui traversent toutes les églises, qu'elles soient du sud, qu'elles soient du nord, qu'elles soient du Pacifique. J'ai parlé tout à l'heure des questions de migration, il y a les questions de l'interreligieux. Nous avons parlé des questions de famille aujourd'hui. Il y a la question de comment le chrétien et l'intolérance religieuse. Nous avons abordé la question de la gouvernance au sein des églises. Quelle est la place de l'église dans l'espace public, église et politique, et tout cela. Et je crois que les églises doivent encore continuer les réflexions. Mais encore une fois, chaque église a sa place et c'est ensemble que nous pouvons dynamiser notre communauté, rendre cette communauté vibrante, efficiente et efficace.
Merci beaucoup. Avant de finir, je voudrais bien taquiner Madame Magda et Pasteur Martin. Vous avez participé à un culte tout à l'heure. Comment l'avez-vous vécu par rapport à ce que vous avez l'habitude de vivre chez vous?
Alors, c'est vrai que j'ai vécu beaucoup de cultes dans ma vie de toutes sortes. Et aujourd'hui, en fait, quand je vais dans un culte qui n'est pas de chez moi, j'accueille ce qui est là. J'essaie de ne pas avoir des pensées, chez moi, ça serait mieux comme ça. Puis ça m'embête ou cela est difficile. J'accueille ce qui est à vivre. Et puis, bien sûr, on en vit un peu ces grandes assemblées qui sont très ferventes. Mais je sais aussi que dessous, il y a beaucoup de soucis. Comme chez nous, ce n'est pas toujours froid. Il y a beaucoup de belles choses aussi qui se vivent. Et c'est peut-être ça que j'aimerais plutôt voir.
Bien, moi, j'ai bien aimé aujourd'hui. C'était vraiment vibrante. Et chez nous, on est une petite communauté. Et de voir la communauté, l'église aujourd'hui chanter et louer Dieu, ça vraiment me... Même si je n'ai pas compris grand-chose pour dire, mais ça m'a vraiment réchauffé le cœur. Et pour dire que... Bon, On peut louer Dieu dans toutes les langues, même si on ne comprend pas, on est là en esprit, on le fait ensemble.
Tout à fait. Pasteur Célestin, vous êtes quand même un peu plus habitué à ce rythme.
Oui, le c'était le culte en évé, hein. On était à la paroisse, au coin centre, donc voilà. Mais ce que je peux relever aussi, c'est qu'on est resté dans le temps, 9h à 11h, et avec la Sainte Cène, je crois que cela mérite d'être souligné.
Merci, en tout cas, nous allons terminer cette émission en écoutant le mot de la présidente de la SEVA à l'endroit des églises membres, mot dans lequel elle relève la richesse que constitue la diversité des membres de la communauté.
Oui, c'est notre mission, on est appelé pour toujours exhorter, encourager, parce que vous comprenez bien, c'est 35 églises dans 24 pays. C'est pas facile, c'est toutes les régions. Il y en a en Afrique, en Europe, en Amérique latine, océan Indien. Vous comprenez que c'est pas facile, cette diversité de cultures, de personnes, mais une diversité enrichissante. Donc nous nous encourageons dans cette mission, dans cet appel, et ce que nous disons, c'est que sur ce chemin, il n'y a pas de repos. Et puis sur le chemin, il y a des cailloux, des peaux de banane, il y a des éléments qui puissent empêcher d'avancer. Mais devant chaque élément, il ne faut pas se décourager. Il faut réfléchir sur comment lever le pied et où le placer pour pouvoir continuer la mission. Donc les églises sont encouragées dans ce sens de continuer à nourrir le peuple de Dieu et d'être cette église de proximité, parce que ça aussi ça joue, d'être là, avoir l'oreille qui écoute, avoir le temps pour l'autre, et c'est ça qui permet d'avancer ensemble. Et nous pensons que la CEV a fait son bout de chemin, jusqu'alors, c'est une satisfaction pour les actions qui se font et qui sont visibles, pas à un endroit fixe, mais visibles dans les 24 pays et dans les 35 églises.
Merci à vous qui avez été avec nous tout au long de cette émission. Nous avions le pasteur Martin Burkhard, qui est secrétaire du conseil exécutif, Madame Magda Capernaum, j'espère que j'ai bien... Copernan, ok, membre du conseil, et le pasteur Célestin Kiki, qui est le secrétaire général de la CEVA. Nous vous souhaitons un bon voyage retour à vous tous, dans vos endroits respectifs, et nous espérons vous retrouver très prochainement à Lomé encore dans le cadre de vos activités.
Merci à vous.
Il y a pas de quoi. Merci à vous, fidèles auditeurs qui nous avez suivis. Pour plus d'informations sur la CEVA, c'est www.ceva.org, c'est CEV2A. En minuscule.org. Merci à Jean-Christophe qui a assuré la manipulation technique. Moi, je m'appelle Josiane et c'est avec bonheur que je vous retrouve la prochaine fois. D'ici là, que le Seigneur vous garde.